Radio Okapi. Journal présenté par Gisèle Cage.
Mesdames, Messieurs, bonjour. Voici le sommaire de cette édition du journal. Suspension de la mise en congé technique des agents d'administration publique bloqués dans la zone contrôlée par le M23 au Nord Kivu. Placide Nzilamba, secrétaire technique de la société civile, exprime sa satisfaction face à la décision du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, ordonnant au gouverneur de suspendre sa note circulaire. La rénovation complète de l'école de formation de police à Kapalata, dans la province de la Tchopo. Un centre de 13 hectares prêt à accueillir plus de 2000 apprenants après une réhabilitation et un équipement complet. École nationale d'administration, un tremplin pour les jeunes cadres universitaires dans la fonction publique. Plus de 740 jeunes intégrés ces dernières années, selon les directeurs Tombola Mouké. Dans ce journal, il revient sur la mission régalienne de son établissement. Ne manquez pas cet entretien avec Radio Okapi, où il est notre invité. C'est tout pour les titres. D'abord cette information. Nouvelle mise en place au sein de la police nationale congolaise, selon plusieurs ordonnances lues hier à la RTNC. Elle concerne divers services. Au niveau des provinces, Blaise Kilimbalimba est affecté au Haut-Katanga et cède sa place à Israël Kantou. Silvano Kasongo quitte le Kassai pour le Bazouélé. Henri Tibound Kapende est nommé chef de la police au Kassai. Désormais, les écoles de formation de la police seront gérés par le commissaire divisionnaire Joli Limingo Julien Mavungu et le nouveau porte-parole de la police, tandis que la Légion nationale d'intervention revient entre les mains de Safari Kazingoufou. C'est une grande satisfaction que nous avons accueilli la décision du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, d'ordonner au gouverneur de suspendre sa note circulaire concernant la mise en congé technique des agents de l'administration publique de la province du Nord Kivu. Ce sont en tout cas le propos de Placide Nzilamba, secrétaire technique de la coordination de la société civile du Nord Kivu, qui réagit ainsi à la décision prise au mardi soir par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, demandant au gouverneur du Nord Kivu de reporter la mesure mettant en congé technique tous les cadres et agents de services publics qui sont bloqués dans les zones contrôlées par le M23. Écoutons Placide Nzilamba, joint par Guy Maté.
Pour nous, ça montre que le ministre de l'Intérieur a pris en compte nos desiderata. Nous pensons que aussi le gouverneur doit être attentif à cette décision et comprendre qu'il a offensé la loi congolaise qui ne consacre pas un congé technique même à son sein, et que donc c'est lui dire d'être sportif et retirer cette décision et remettre tous les agents dans leurs droits. Tous les agents qui n'ont pas reçu leur salaire des mois passés, ils devaient procéder à leur paiement parce que tout simplement il avait de leur survie et il avait aussi de la solidarité du gouvernement envers cette population meurtrie par la guerre, cette population abandonnée à son triste sort, cette population qui souffre à Goma, partout ailleurs dans l'est de la République démocratique du Congo. Et enfin, nous demandons à son Excellence, Monsieur le Gouverneur, de se concentrer résolument sur les opérations militaires afin de libérer tout l'espace sous l'emprise de l'ennemi et permettre à tous les agents d'aller au travail et de rentrer dans leurs activités quotidiennes, et toutes les personnes qui souffrent aujourd'hui dans une prison à ciel ouvert à Goma, qu'ils trouvent aussi un ouf de soulagement.
Restons au Nord Kivu. L'organisation Médecins sans frontières alerte sur les risques imminents qui menacent l'hôpital général de référence de Walikale. Si les affrontements se poursuivent dans la région, il y aura bientôt une pénurie de médicaments essentiels nécessaires pour la prise en charge des malades et des blessés, s'inquiète MSF. Depuis le début des combats entre les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda et les soldats des FARDC dans la zone, près de 1000 personnes déplacées ont trouvé refuge dans cet établissement médical. L'espérance de vie à Goma est d'une journée renouvelable. Cette boutade souvent lancée par les habitants de la cité lacustre pour dédramatiser la mort omniprésente tend à devenir une réalité. Mardi soir, un meurtre odieux a glacé le sang des habitants du quartier Katindo. Un jeune entrepreneur opérant près de la paroisse catholique Carmel a été abattu par des hommes armés. Élise Kavira nous fait le point.
Il venait de terminer sa journée de travail et s'apprêtait à regagner sa maison pour y retrouver son épouse et ses deux enfants. Il n'avait pas encore fini de placer les cadenas de son échoppe quand des individus armés et habillés en treillis ont surgi sur une moto, tirant des rafales avant de poursuivre leur rodéo motorisé. Le jeune homme, grièvement blessé, s'écroule, gravement atteint. Il est transporté dans une structure sanitaire du quartier où le décès est constaté, rapportent les témoins. Un choc pour toute sa famille, sa clientèle et ses autres connaissances qui réalisent encore une fois l'évidence de cette phrase qui a tout l'air d'une blague, l'espérance de vie à Goma est une journée renouvelable. Oswald ne rentrera plus jamais chez lui à la maison vivant. Hier matin, au quartier Himbi, dans la commune de Goma, une découverte macabre est faite entre les endroits identifiés comme Majima Tulivu, Fleur de Lys et deux paysages. Le corps d'un jeune homme, la vingtaine, les bras ligotés dans le dos, avec signe de strangulation et asphyxie, la tête hermétiquement enveloppée dans un sac en plastique. À Goma, vous sortez de la maison le matin, pas toujours sûr de revenir en vie, affirment avec tristesse divers observateurs. Face à cette situation alarmante, les habitants du coin plaident pour plus de sécurité.
Dans la province de la Tchopo, l'école de formation de police Kapalata fait peau neuve. Ce centre de formation s'étendant sur près de 13 hectares a été entièrement réhabilité et équipé. Il est désormais prêt à accueillir plus de 2000 apprenants. Lors d'un entretien avec la presse mercredi, le commissaire provincial adjoint de la PNC a exprimé sa satisfaction et sa gratitude envers le gouvernement pour cette réhabilitation conforme aux standards internationaux. Ce travaux financé par le gouvernement congolais vise à améliorer les conditions de formation des futurs policiers. Les explications avec Jacques Moukonkolé.
Le constat est favorable après la visite d'inspection du commissaire provincial adjoint de la police nationale congolaise dans la Tchopo, le colonel Alexis Andiré, le superviseur de travaux, le commissaire supérieur principal Kelly Kabouya du génie civil de la PNC explique que tout a été complètement réhabilité.
Nous avons tout fait, c'est-à-dire la réhabilitation totale en maçonnerie, production d'eau. Nous avons fabriqué plus de 2000 lits et les équipés. Nous avons fait fabriquer 4 sabans. Nous avons remis les courants au niveau de ces sites. Nous avons prévu le déforage. Nous avons réhabilité des toilettes.
Le commissaire supérieur principal, Romain Bissiono, commandant de l'école de police de Kapalata, est le plus heureux. Il promet tout son engagement pour une formation de qualité dans le cadre du programme de la réforme de la police nationale congolaise.
Les pistes d'obstacles, les terrains d'exercice réhabilités, tout a été bien réhabilité, tenant compte des valeurs humaines. Quand on est bien formé, on peut bien sécuriser. Ça sera une joie de voir les jeunes gens qui entrent à la police à la grande porte.
Le site de Kapalata, situé à 7 km au nord de Kisangani, est désormais prêt pour accueillir plus de 2000 futurs policiers, dont 200 filles. Jacques Moukonkolé, Kisangani, Radio Okapi.
En Ituri, le niveau de criminalité reste préoccupant selon le bilan sécuritaire dressé par la police. Pour le premier trimestre de cette année, une dizaine de morts ont été enregistrées dans la ville et ses environs, a révélé mercredi le commandant urbain de la police nationale congolaise lors d'une parade. Selon le colonel Abeli Mwangu, certains auteurs de ces actes criminels ont été transférés à l'auditorat militaire tandis que d'autres sont toujours en fuite. Il indique qu'à ces cas s'ajoute une cinquantaine d'accidents de circulation ayant causé 8 morts dans la ville. Le colonel Abeli Mwangu appelle la population à continuer de collaborer avec le service de sécurité pour permettre aux forces de l'ordre d'intervenir rapidement en cas de problème. Un extrait du message du colonel Abeli Mwangu est choisi par Martial Kizabia Mungu.
Également que nous avons enregistré plusieurs cas d'extorsion des biens des paisibles populations par des militaires incontrôlés et des hommes armés non autrement identifiés dans la commune de Mbunya, quartier au spécialement et Bangkok. Certains inciviques ont été arrêtés et déférés à l'auditorat. D'autres sont encore recherchés par nos services spécialisés. Un autre cas est venu s'ajouter, celui-là un cas d'assassinat d'un cambiste tenancier de shop M-Pesa dans la commune de Kasanza, à Musipela, au quartier Musipela, par des hommes armés non autrement identifiés. Nous avons enregistré dans la ville de Bunia 58 cas d'accidents enregistrés, 9 cas de décès. Beaucoup de cas où des dégâts matériels et humains ont été aussi enregistrés. Et la cause de ces cas d'accidents, premièrement, il y a eu mauvais dépassement pour certains cas. Pour d'autres cas, mauvais croisement. Troisième cause, l'excès de vitesse. Le non-respect de la place sur la chaussée. Quatrième cause, l'imprudence au volant ou bien au guidon.
C'était donc le colonel Abeli Mwangu de la police en Ituri, dans la province du Maniema. La coordonnatrice du réseau national des ONG pour le développement de la femme, Renadef, plaide pour une prise en charge complète des femmes du territoire des Kabambaré. Selon Marignon Bozaïna, les femmes de ces territoires, victimes de violences de toutes sortes, ont besoin d'un accompagnement holistique. Elle a exprimé cette nécessité hier mercredi, lors de la clôture du projet d'appui à la protection des femmes et des filles de consolidation de la paix et de gestion pacifique des conflits. Ce projet financé par l'ONU Femmes a été exécuté dans le territoire de Kabambaré pendant une année. Écoutons Marignon Bozaïna au micro de Florence Kizalunga.
Les projets d'appui à la protection des femmes et des filles, mais aussi à la consolidation de la paix dans le territoire de Kabambaré qui a été appuyé par l'ONU Femmes arrive à sa fin. Il y a eu beaucoup de défis qui vont se formuler en plaidoyer. Le défi, c'est que le projet était en train de s'exécuter dans un contexte sécuritaire difficile. Et là, ça demande à ce que les gens puissent travailler efficacement avec l'implication de tout le monde pour qu'il y ait la cohésion sociale et la paix. Deuxièmement, les femmes qui ont été identifiées des victimes et survivants des violences sexuelles basées sur le genre. Il y en a qui ont été accompagnés psychologiquement, c'est bien, mais la plupart se retrouvent abandonnées par leur mari, avec des listes d'enfants qu'elles doivent continuer à prendre en charge. Dans quelles conditions, où il n'y a pas la paix, où il n'y a pas la sécurité pour les accompagner dans la réinsertion socio-économique? Parce que ces besoins se font sentir. Ces femmes sont là. Bien sûr, on a travaillé en collaboration avec MSF, bien sûr, mais c'est les mêmes besoins qu'on nous a ramenés. Donc, nous devons travailler dans le plaidoyer pour la mobilisation des ressources afin d'assurer la réinsertion socio-économique de ces femmes, mais aussi plaider pour que les services de prise en charge autres sur le plan juridique puissent être effectifs dans le territoire de Kabambaré.
Au Kasaï oriental, la route Mbujimayi-Kananga, longue de plus de 200 km, est en cours de réhabilitation. Les travaux de réhabilitation et de modernisation de la route sont effectués depuis deux mois par l'entreprise Safrimex de Mbujimayi sur 30 km et par l'entreprise GMC Johnny Matala Company SRL sur 15 km après la résiliation du contrat entre le Fonds de promotion de l'industrie FPI et l'entreprise Samcret. Avant la fin des travaux, certains habitants de Mbujimayi apprécient les améliorations car la route est devenue accessible aux piétons et aux véhicules à certains endroits. Esther Ndalafina.
La route est bien aplanie et accessible aux piétons et à tous les engins roulant à partir du rond-point Petrombou, appelé communément Kalalawankata, jusqu'au niveau du commissariat de référence de la police de proximité de la commune de Bipemba à Mbujimayi, soit 1,5 km. D'après le directeur provincial de l'office des routes, les travaux consistent en élargissement de la route à Mbujimayi afin d'obtenir deux voies comportant deux bandes chacune, mais déjà quelques habitants apprécie ces travaux.
Cette société nous a rendu un bon service que nous sommes en train d'apprécier.
Avant, la route était impraticable. Il y avait beaucoup de saletés, beaucoup de boue.
Pendant ce temps, l'entreprise Johnny Matala Company a débuté aussi les travaux similaires à partir de la localité de Kenankuna, chef-lieu du territoire de Kabayakamanga, pour faire jonction avec Safrimax au niveau de la localité de Katende, soit 15 km. Marcus Okita, directeur provincial de l'office des routes, affirme que les travaux d'assainissement sont à près de 2 km. Les usagers de cette route souhaitent que les travaux arrivent à terme. L'office des routes signale que trois entreprises chinoises ont gagné le marché pour la construction de la même route dans son axe Kabayakamanga-Kananga au Kasaï central. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
Hier mercredi à Kinshasa, les travaux de réflexion sur l'appropriation de la stratégie nationale de promotion et exportation et diversification se sont clôturés. Cette initiative menée par le ministère du Commerce extérieur à travers l'Agence nationale pour la promotion des exportations vise à aider la RDC à accroître le volume de ses exportations dans le secteur agricole. Les détails avec Emmanuel Elamegi.
La RDC entend accroître ses importations en tirant profit des opportunités qu'offre le marché international actuellement. C'est notamment le marché américain avec la GOA, le marché chinois avec l'accord commercial bilatéral signé, les marchés européens et le marché africain avec la zone libre d'échange continentale africaine ZLECAF. Les objectifs, les enjeux et les axes stratégiques de la SPED sont focalisés sur la diversification de l'économie congolaise. Le professeur Henri Nguerendaoué insiste sur le cadre opérationnel de la promotion des exportations et diversification.
Quand nous prenons les secteurs productifs congolais, vous avez le ministère de l'Agriculture, le ministère de la Pêche qui sont dans les secteurs productifs, l'industrie, mais il y a également la logistique qui doit accompagner les secteurs des exportations et vous avez également ce que nous disons, les secteurs d'appui aux exportations, l'énergie qui doit également être mise à contribution pour permettre la diversification de nos exportations.
Signalons que pour l'Agence nationale de la promotion des exportations, le volume actuel des exportations de la RDC dans le secteur agricole est évalué à 0,4% contre 99,6% de produits miniers et des hydrocarbures.
Le regroupement politique Action des Alliés pour la démocratie et le développement, dirigé par son autorité morale Godard Motemona, a été consulté par le conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité, Désiré Kachmir Eberand Kolongele. Ces consultations sont menées sur recommandation du chef de l'État en vue de la formation d'une union nationale. Les explications de Blaise Ndongala Mayanda.
Le regroupement politique Action des Alliés pour la démocratie et le développement n'a pas dérogé à la règle édictée par l'Union sacrée de la nation en marquant sa présence aux consultations nationales. Au sorti de ces échanges politiques qui s'inscrivent dans un esprit de cohésion nationale, le vice-ministre des Mines a réaffirmé sa loyauté et celle de son regroupement politique envers le président de la République, Félix Tshisekedi.
Nous venons de réaffirmer notre adhésion à la vision du chef de l'État et nous avons émis nos vœux auprès du conseiller spécial en remettant un mémorandum que nous laissons plutôt à la primeur au conseiller spécial pour le président de la République.
Il a également appelé les autres forces vives de la nation à mettre de côté toutes les divergences pour privilégier l'intérêt supérieur de la patrie afin de faire face à la guerre d'agression et de parvenir à restaurer les frontières nationales telles qu'héritées de la colonisation. Conformément à la vision du chef de l'État, ces consultations initiées devront déboucher dans les prochains jours à la formation d'un gouvernement d'union nationale.
Actualité internationale.
En Syrie, des civils ont été tués ce jeudi par des bombardements israéliens dans la province de Dera. L'armée israélienne affirme avoir répondu à des tirs lors d'une opération en Syrie. 9 civils au total ont été tués et d'autres blessés selon le premier bilan à la suite d'un bombardement israélien près de la ville de Nawa dans l'ouest de Dera. Après une incursion israélienne, ont précisé les autorités dans un communiqué sur leur chaîne Telegram. Et puis, plus de 3000 personnes ont perdu la vie en Birmanie, dont les puissants séisme de magnitude 7,7 qui a frappé le pays 6 jours plus tôt, selon un nouveau bilan de la junte établie ce jeudi. Un porte-parole militaire au pouvoir a déclaré qu'au moins 3085 décès sont confirmés, que 3041 personnes sont toujours portées disparues et que 4715 personnes sont blessées.
L'invité.
Au cours de 8 dernières années, au moins 740 jeunes cadres universitaires ont été intégrés dans l'administration publique congolaise. Le directeur général de l'École nationale d'administration a partagé ces statistiques lors d'un entretien avec Radio Capi ce mardi. Tombola Mouké a expliqué que son établissement a pour mission de recruter et de former ces jeunes Congolais pendant 12 mois afin qu'ils puissent assurer le suivi et l'évaluation des politiques publiques et ainsi transformer l'appareil administratif. Tombola Mouké répond aux questions de Blaise Ndongala Mayanda. Suivez.
Bonjour, monsieur le directeur général.
Bonjour.
Qu'est-ce que nous pouvons comprendre de l'École nationale d'administration?
L'École nationale d'administration ENA RDC est un établissement public créé le 16 avril 2013 à travers du décret 1303 pour contribuer à doter l'État d'un vivier de fonctionnaires de hauts fonctionnaires compétents et intègres pour permettre de sortir l'État des sentiers battus. L'école a une longue histoire. Elle a commencé par l'École nationale de droit ENDA, il y a plus de 60 ans, qui a été supprimée par la suite. Puis il y a une autre initiative en 2001, et puis finalement l'ENA actuelle, sous la forme d'établissement public. Tout cela témoigne de la volonté du gouvernement congolais depuis les années d'après l'indépendance de se doter d'un personnel administratif de qualité.
Quel est selon vous, monsieur le directeur, l'apport de l'ENA dans la bonne marche du pays?
Alors, l'école a pour mission principale de recruter et de former de jeunes cadres universitaires et de les mettre à la disposition des services publics plus généralement. Ces jeunes universitaires sont formés, ils sont recrutés de manière compétitive, ensuite sont formés pendant 12 mois dans le cadre d'un tronc commun pour être outillés et capables de concevoir, mettre en œuvre et assurer le suivi et l'évaluation des politiques publiques. Ça fait 8 promotions déjà à ce jour qui sont formées pour 743 énarques mis à la disposition des États employeurs, au cadre de hauts fonctionnaires qui contribuent à aider dans la conception de politiques publiques, qui contribuent à aider à transformer l'appareil administratif, comme j'aime le dire, en un modèle de progrès, un modèle d'excellence.
Vous dites qu'ils sont recrutés de manière compétitive. Quelles sont les conditions d'éligibilité?
3 conditions essentiellement. D'abord, une condition d'âge, conformément au statut des agents de carrière des services publics de l'État, parce que les élèves recrutés ici ont les statuts de fonctionnaires stagiaires, et l'âge limite pour être recruté agent de carrière des services publics de l'État, c'est 35 ans. La deuxième condition, c'est la nationalité. Il faut être de nationalité congolaise. Et la troisième condition, c'est la formation universitaire. C'est au minimum un bac plus 5, ce qu'on appelait dans l'ancien système licence. Maintenant, avec le LMD, c'est master.
Quelles sont les matières dispensées tout au long du cursus?
La formation initiale organisée au profit des élèves s'articule autour de 4 axes. Le premier axe, c'est les modules de cours. C'est votre question, je vais y revenir. Le deuxième axe, c'est les séminaires et les conférences. Le troisième axe, c'est les stages. Les élèves en font 2, un stage d'immersion de 2 semaines et un stage de professionnalisation de 3 mois. Et enfin, ils sont soumis à l'élaboration au terme de leur cursus d'un travail des politiques publiques qu'on appelle formation action FORAC. Alors pour revenir au module de cours, c'était votre question. Il y en a 38 dans le cadre du programme actuel qui est en pleine réforme, hein, mais il y a un module d'intégration, puisqu'ils viennent de différentes filières. Toutes les filières peuvent postuler à l'ENA. Il y a un module d'intégration pour permettre de les mettre à niveau, tous, avec un certain nombre de cours, un module management et un module territoire et un module grands enjeux contemporains. Chaque module, c'est en moyenne 10 cours. Et ça fait environ 38 cours au total qui sont dispensés. Ça concerne tous les domaines de la gestion de l'État, les marchés publics, les ressources humaines, la gestion de projets, l'élaboration de politiques publiques, le suivi et évaluation de politiques publiques, la décentralisation, toutes les matières qui concernent la gestion administrative et plus généralement la gestion de l'État.
Quelles sont les garanties pour les jeunes qui fréquentent l'École nationale d'administration?
Tout au long de leur formation, ils sont boursiers parce qu'ils sont recrutés par l'État. L'ambition pour l'État congolais était de rendre le secteur public attractif, parce que pour attirer les meilleurs. D'où l'organisation de ce programme de formation initiale avec une bourse qui est accordée mensuellement aux élèves pendant leur formation. Au terme de la formation, ils sont admis sous statut, donc ils deviennent fonctionnaires de l'État. Ils intègrent ce qu'on appelle le corps des administrateurs civils, puisqu'ils intègrent l'administration publique au grade d'attaché d'administration de première classe.
Monsieur Tombola Mouké, nous vous disons merci.
C'est moi qui vous remercie.
Tombola Mouké, directeur général de l'École nationale d'administration, répondait aux questions de Blaise Ndongala Mayanda. Ce journal touche à sa fin sur Radio Kapi. À la mise en onde, Polydor Basunga, coordination, supervision, Pelekipe Lamondo, présentation Gisèle Cage. Vous pouvez continuer à suivre le programme de Radio Kapi en restant connecté sur WhatsApp via les liens disponibles sur nos réseaux sociaux, notamment Facebook et X. Votre fidélité nous est précieuse, alors restez avec nous.